Se pensi che gli anni non andrà a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission à l'écoute des passages. Les passages, ce sont aussi des espaces de pensée et de vécu qui acceptent d'être à la marge de la pensée unique. Ce sont des espaces qui ne font pas référence à une normalité, parce que ce sont des espaces d'humanisation. Je souhaite que pour chacun de vous, cette émission soit l'occasion d'y trouver de quoi vous autoriser à votre tour à exprimer votre créativité. Alors bienvenue au studio Gisèle Halimi et merci à Grégor d'assurer la technique. En février 2023, je découvrais la radio Esprit Occitanie. Andrés Atanza m'invitait à son émission Sentinelle d'Humanité. J'ai accepté alors de produire et d'animer une émission sur le thème de la parentalité, puisque j'avais fait cette hypothèse sur la maternité des Néandertaliennes. Pourquoi la parentalité alors que la créativité prend sa source dans l'infantile des enfants passage? En effet, les petits-enfants créent et inventent ce qui leur passe par la tête sans se soucier du « qu'en dira-t-on ». Mais, en grandissant, ils deviennent sensibles à la comparaison et ils deviennent leurs propres juges. Leur imaginaire cède peu à peu la place à la réalité de l'observation.
Les autres dessinent mieux. Mon dessin est nul. Et de toute façon, ça ne ressemble pas.
Alors, l'enfant gomme, puis déchire et peut finir par abandonner. C'est là que la parentalité intervient. Soit les commentaires confirment que ça ne vaut pas la peine de continuer, soit ils encouragent et s'engagent dans la persévérance de l'apprentissage. L'énergie créatrice de l'infantile brut du début de la vie va devoir apprendre à se canaliser, à s'apprivoiser avec patience dans l'engagement du lien avec le parental. Et l'engagement, nous avons vu, c'est du temps long, parsemé de brouillons, de ratures, et qui peuvent aussi faire œuvre d'art d'ailleurs. Alors, si pour créer, il faut de la patience, attendre l'inspiration devant la feuille blanche, cela peut effectivement être du temps très long. Qui va me donner la confiance de croire que l'inspiration va finir par arriver? Et d'où vient-elle cette muse? Qui va s'engager à m'accompagner pour ne pas attendre tout seul et finir par me désespérer? Qui d'autre, si ce n'est une présence assumant cette fonction de parentalité? Une fonction qui porte l'exigence du temps de l'attente avec la bienveillance d'une présence silencieuse et patiente, confiante dans cet engagement. Celui de la rencontre des infantiles, l'infantile de l'enfant, avec celui de la présence adulte qui y croit. Alors, aujourd'hui, l'émission choisit de se mettre au chevet de l'engagement. Et c'est pour ça que l'émission porte comme titre « La clinique de l'engagement ». La clinique, c'est quand on devient médecin. Elle s'apprend surtout au lit du malade, elle ne s'apprend pas seulement dans un amphithéâtre. La clinique s'apprend du malade lui-même. Il faut se mettre à son chevet, en l'écoutant, en observant le langage du corps, son visage, son regard, ses gestes. La science des signes, c'est la sémiologie. Elle ne résulte pas seulement de la constatation objective des faits. C'est aussi une science de l'interprétation, avec toute sa subjectivité à partir de l'observation et de l'écoute. L'humanisme est au cœur de la clinique de l'infantile et du parental. Mais ce n'est pas si facile que ça d'écouter celui qui se déclare malade. Surtout si l'enfant prend le prétexte d'être malade pour ne pas aller à l'école. Comme toujours, en préparant l'émission, je cherche des chansons pour la portée. J'écoute les paroles comme si j'étais au chevet du chanteur. Et alors là, sans réfléchir, c'est la chanson de Serge Lama qui est montée du fond de ma mémoire. En 1973, il chante « Je suis malade ». Ce sera un tournant dans sa carrière avec un premier disque d'or.
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie, ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller, tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade. Tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix. Chantera, je suis malade, complètement malade. Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade. C'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants. J'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades.
Alors, est-ce à dire que de nos jours, l'engagement est malade? Et si oui, de quelle maladie souffre-t-il? Qui s'engage? Qui s'engage à quoi? La clinique de l'engagement, je crois pouvoir dire que tous les jours, mon écoute de l'infantile brut m'y confronte. Il me confronte à ses exigences, qui rend l'engagement difficile parce que ça peut conduire à des impasses. Ces impasses résultent de malentendus dans la relation aux autres. L'engagement dans l'écoute de l'infantile brut peut paraître ridiculement prétentieux une fois devenu adulte. Il peut générer des incompréhensions et des effets pervers. Pour tenter de les éviter ou pour les déjouer, il a fallu que je me mette au chevet de l'engagement. Cette clinique m'a conduit à prendre le temps de dénouer la complexité du verbe « engager » et de sa forme réflexive « s'engager ». Engager, s'engager, ces deux verbes posent une série de questions. Engager qui? Engager quoi? S'engager vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de quoi? Pour quels objectifs et à qui rendre des comptes? Toutes ces questions contiennent toutes les raisons qui font que l'engagement peut soulever des malentendus, voire des oppositions et des conflits qui risquent de mettre l'engagement en échec. Sans décoder les enjeux de l'engagement, la répétition des incompréhensions provenant des autres peut nous laisser souvent découragés, puis résignés au risque de l'indifférence, abandonnant alors l'infantile brut au désespoir privé de tout engagement. Je suis malade. Quand on prend conscience de la réflexivité, on perçoit la différence entre « j'engage » et « je m'engage ». Quand j'engage, ça veut dire que je prends l'initiative en mobilisant une énergie intérieure qui s'appelle une motivation, une intentionnalité, qu'elle soit consciente ou non. Qu'il s'agisse d'engager une partie, une discussion, une rencontre, une relation, une démarche, nous n'avons pas tous une motivation de même nature. Le spectre de la motivation va d'ailleurs d'un simple plaisir à engager pour jouer, ou à un besoin impérieux d'engager pour dominer, pour gagner. Mais gagner qui? Gagner quoi? Dominer qui? Dominer quoi? Par contre, quand il va s'agir d'engager un combat pour des valeurs d'humanisation, nous aurons tous la même motivation si notre vie en dépend, la motivation d'une survie de l'humain auquel on croit, au risque d'en mourir. C'était l'engagement dans la résistance, celui de la génération de Stéphane Hessel qui, en 2010, nous a enjoint impérativement d'abord de nous indigner, puis de nous engager. Un besoin impérieux de préserver notre humanisme. Mais que dire quand des valeurs prétendument humanistes jettent la confusion entre se défendre et agresser, agresser pour se défendre? La perversion des malentendus qui manipulent, qui divisent pour mieux régner. Et que dire aujourd'hui de l'engagement de la jeune génération, comme celui de Greta Thunberg? Un engagement qui peut aussi être récupéré et s'accompagner de tous les malentendus ou effets pervers du militantisme. L'écosophie proposée par Félix Guattari a besoin d'une écologie mentale, intime, personnelle et silencieuse pour s'engager dans le besoin impérieux de préserver notre terre et notre dépendance à la nature environnante, notre humanité. Alors le point commun de ces deux engagements pour notre humanité et notre terre, c'est qu'ils devraient s'imposer à l'intérieur de nous-mêmes. Un impératif intime et personnel, un impératif au temps présent. Cet impératif peut être formulé en s'adressant à l'autre, comme l'a fait Stéphane Hessel. Engage-toi, engagez-vous. On peut aussi s'y inclure collectivement. Engageons-nous. Engageons-nous tous ensemble à agir pour défendre notre environnement. Engageons-nous tous ensemble pour défendre les droits fondamentaux de l'individu universel, y compris de celui qui est porteur de fragilité. C'est dans ce contexte des relations humaines que les autres formes impératives se déclinent. Engage-le. Engagez-les. Engagez-moi, moi qui suis porteur de handicap et qui ai le statut de travailleur handicapé. Mais en prenant conscience de la réflexivité, j'ai réalisé qu'il n'existe pas de forme impérative que je puisse m'adresser à moi-même, puisque « engage-moi » s'adresse à l'autre. « S'il te plaît, engage-moi ». Suis-je donc contraint à attendre qu'un autre accepte de s'engager pour moi ? Ou alors, si l'autre me demande de m'engager, est-ce pour lui ou pour moi ? Dois-je donner mon consentement par cette réponse « oui, engage-moi dans ta demande » ou de façon plus active « oui, je m'engage dans ta demande » au risque de me perdre ? Serais-je condamné à ne pas pouvoir m'inciter à m'engager tout seul, à moins de m'adresser à moi-même par la voix d'un autre, un autre à l'intérieur de moi, une altérité qui me dirait « engage-toi ». Mais ça, ce n'est peut-être possible qu'une fois devenu adulte. Avant d'être adulte, il y a l'enfant. L'enfant malade de devoir perdre sa toute-puissance. Il a besoin d'un ami, un maître, un parent pour s'engager à continuer à vivre malgré ce deuil et éviter de tomber dans le désespoir.
J'ai essayé à 100 reprises de vous parler de mon ami. Mais comment parler d'une église dont l'accès vous est interdit? Mais ce soir, je sens sous ma plume un fourmillement familier. Quand le soleil du cœur s'allume, l'éteindre serait un péché. C'est mon ami et c'est mon maître. C'est mon maître et c'est mon ami. Dès que je l'ai vu apparaître, j'ai tout de suite su que c'était lui. Lui qui allait m'apprendre à être ce que modestement je suis. Comme une chèvre vendéenne de ses secrets, il est jaloux. Et même s'il a de la peine, il ne vous parle que de vous. Il conserve de son bel âge un sourire au fond de ses yeux. Et je me dis que c'est dommage de vous le décrire sans cheveux. C'est mon ami et c'est mon maître. Je le vous vois encore aujourd'hui. Et quand j'ai mal dedans mon être, je passe une heure ou deux chez lui. L'air qu'on respire à sa fenêtre, c'est l'air le plus pur de Paris. Il porte en lui dur comme une arme, un orgueil au-delà de tout. Au point que même au bord des larmes, il vous fera croire qu'il s'en fout. C'est lui qui a fortifié mon âme. Et si je suis encore en vie, je ne le dois pas à cette femme qui me rend heureux aujourd'hui, mais à mon ami, à mon maître. Et dans la chanson que voici, je sais qu'il va se reconnaître. Mais puisque nous sommes entre amis, ce soir, je peux bien me permettre de vous le présenter aussi.
Avons-nous tous, comme Serge Lama, un ami, un maître? L'infantile a bien joué avec Saint-Exupéry. C'est le renard qui demande au petit prince de s'engager à l'apprivoiser. « S'il te plaît, apprivoise-moi. Engage-toi à m'apprivoiser. »«
Mais je ne sais pas comment on fait. »
C'est le renard qui explique au petit prince. « On s'engage à venir tous les jours, à la même heure. » L'infantile brute serait donc une animalité au cœur de l'enfant qui a besoin d'être apprivoisé et qui le réclame. Serge Lama est né pendant la guerre, fils unique d'un père chanteur d'opérette dans la région de Bordeaux. Le site qui lui est consacré raconte une enfance heureuse qui passe ses vacances chez la grand-mère maternelle. Les paroles des Ballons Rouges, pourtant, ne sont pas celles d'une enfance heureuse. Ce sont celles d'un enfant désespéré qui n'a rien eu, rien donné, rien reçu, mais qui a eu la chance de ne pas se comparer aux autres et qui, plus tard, a fait ce qu'il a voulu. En attendant, à 7 ans, il est en pension et confié à la grand-mère, le temps que ses parents s'installent à Paris où son père a décidé de tenter sa chance d'artiste lyrique. Quelques années plus tard, poussé par sa femme qui ne supporte plus la vie précaire d'intermittent du spectacle, il renonce à sa carrière de chanteur et devient représentant commercial. Durant ces années, le jeune Serge baigne dans la chanson française. Face à ce père en mal de succès, il transfère auprès de cet ami de son père son besoin de parentalité, d'encouragement, un maître qui devient un ami. Cette rencontre de parentalité, celles qui suivront, et les épreuves de la vie, canaliseront son infantile brut pour devenir l'artiste qu'il est devenu. À 11 ans, il écrit ses premiers textes et rêve de chanter à l'Olympia. Il ne s'intéresse pas beaucoup aux études scolaires et quitte le lycée sans diplôme. Il finit par se sauver de chez ses parents et part en Algérie pour son service militaire où il est affecté dans une base en plein désert. De retour à Paris, il passe des auditions et son engagement à devenir chanteur fait qu'à 21 ans, il est engagé. Engagé au cabaret L'Écluse où chante Barbara, la vedette du spectacle. Serge tombe amoureux de la pianiste de 8 ans son aîné. L'année suivante, ils sont fiancés. Après un passage à Bobino, en levée de rideau de Barbara et de Georges Brassens, ils partent en tournée avec Marcel Amont et son régisseur, le frère d'Enrico Macias. Le 12 août 1965, ils sont victimes d'un terrible accident. À l'arrière de la voiture, sa fiancée meurt sur le coup et lui est polytraumatisé. Il frôle la mort. Il passe un an sur un lit d'hôpital. Il subit plus d'une dizaine d'opérations. La parentalisation collective des artistes autour de lui le soutient. Bien qu'encore immobilisé, il enregistre 2 45 tours et à 24 ans, après une longue rééducation, il écrit Les Ballons Rouges. Les Ballons Rouges deviendra un album 2 ans plus tard, avec des titres comme C'est toujours comme ça la première fois et Une île entre le ciel et l'eau, qui lui apporteront la reconnaissance du public. Son engagement à chanter son infantile brut lui permet en 1973 l'écriture de Je suis malade. Il lui a fallu le temps de la trentaine pour mettre des mots sur son histoire. Quand on grandit, qui est cet autre qui me permet de dire que je suis malade? A-t-on conscience de la façon dont il s'est installé en nous, cet autre parental? On pourrait croire que cet autre est seulement ce parent, cet ami, ce maître. Mais si cette présence est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Ce n'est pas si simple, nous l'avons vu avec le renard du Petit Prince. Ma clinique de l'engagement en tant que thérapeute m'a appris que cet autre, cette altérité intérieure, c'est aussi la voix de l'infantile, l'infantile brut, celui qui peut pousser à s'engager à n'importe quel prix. Et quand il s'agit d'un enfant, à quels engagements ça le contraint ? Force est de constater que bien souvent, cela contraint l'enfant à s'engager dans la colère, à ne s'engager que dans son bon vouloir, ou à ne pas s'engager du tout dans l'attente que les autres le fassent à sa place. Moi, je, d'abord, je fais ce que je veux. Sinon, dégage. Ou c'est moi qui dégage. C'est la raison pour laquelle la clinique m'a conduit à construire la relation entre l'engagement infantile et celle de l'engagement parental. C'est le parent qui me dit « engage-toi », qui dit à mon infantile brut de s'engager tout en l'aidant à se canaliser. Cette double altérité se construit à partir du couple de l'infantile et du parental, et ce couple est en réalité une triangulation puisque le parental est à la fois de l'exigence et de la bienveillance. Après la bienveillance du maternel de la toute petite enfance, vient le temps de l'exigence des contraintes de vivre avec son corps et de vivre au milieu des autres. L'infantile et le parental évoluent donc et se transforment mutuellement au fil du temps. De nombreux engagements aujourd'hui sont malades de ne pouvoir s'inscrire dans du temps long. Certes, il peut y avoir des thérapies brèves qui exorcisent les traumatismes, mais il faut de l'audace et du courage pour s'engager à se parentaliser, ainsi apprendre à se responsabiliser et prendre sa vie en main. L'engagement est donc un processus d'initiation et de transmission qui nécessairement passe au début par l'autre. Au moins un autre, mais pour un enfant ou un adolescent, c'est mieux si cela passe par plusieurs autres. C'est comme la consolation. Il faut avoir été d'abord consolé pour pouvoir consoler. Avant de pouvoir s'engager dans sa vie d'adulte, il est souhaitable d'éprouver l'engagement du couple bienveillance-exigence à l'intérieur de soi. Parce que notre enfant intérieur, il a besoin d'être nourri de cette exigence bienveillante. En fonction de notre enfance, l'infantile se construit plus ou moins bien sur ce mode triangulé. Depuis quelques décennies, cette conjugalité est malade et semble ne pas pouvoir s'éprouver conjointement. Pourtant, revendiquer le droit à prendre sa vie en main devrait nous faire comprendre que nous sommes responsables de nos envies, de nos besoins, de nos désirs, les émergences pulsionnelles premières du petit enfant qu'il faut canaliser, élaborer. Pris dans les déliaisons des adultes entre eux, l'infantile de l'enfant est livré à une toute-puissance qui peut l'engager dans des voies extrêmes. Se fabrique alors ce que Wajdi Mouawad nomme un obus dans le cœur. À moins de retrouver du féminin pour se consoler de nos manques et de nos carences affectives. C'est peut-être pour cela que c'est plus facile pour les hommes d'aller chercher le féminin, alors que pour les femmes, il leur faut du masculin maternant. L'un des plus grands succès de la carrière de Serge Lama est contenu dans son album de 1978 au titre éloquent « Enfadolescence », contraction d'enfance et d'adolescence. Dans cet album, l'un de ses plus grands succès, c'est la chanson « Femme, femme, femme ». Les paroles mélangent l'image de la femme et de la mère. L'homme, tout en s'adressant à son petit garçon intérieur, demande à la femme « Fais-nous voir le ciel, rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Fais-nous voir l'amour sous son meilleur jour. Choisis ton endroit, on te fait confiance. » Nous avons vu que l'engagement, dans l'écoute de l'infantile brut, peut paraître ridiculement prétentieux. Mais Serge Lama assume sa rencontre avec le féminin qui soigne les traumatismes et l'aide à apprivoiser son infantile brut. Alors, presque tout lui est permis. En 1982, Serge se lance dans l'écriture de la comédie musicale consacrée à Napoléon. Il est vrai qu'il a un peu la tête de l'empereur. Ce spectacle a rencontré un grand succès chez nos cousins canadiens, avec plus d'un million d'entrées à Montréal. J'en profite d'ailleurs pour saluer les auditrices et auditeurs de la province du Québec, car on m'a dit qu'Esprit Occitanie était écouté dans cette belle région francophone. Étant toujours au chevet des paroles de Serge Lama, j'ai écouté « Il y a un jardin sur la terre ». C'est peut-être en pensant à la belle province qu'il écrit « Un petit coin perdu pour cultiver son cœur et prendre à l'éphémère ce qu'il a de meilleur. »
À force de courir pour ne rien découvrir, de n'être aventurier que dans ses souvenirs, de faire des voyages comme on fait des affaires, et perdre sa jeunesse comme on gagne une guerre. On arrive à se dire que rien n'est important, on n'a plus rien à dire, on a peur. Un jardin sur la terre, un petit coin perdu, juste un trompe-misère, l'abri, rien de plus. Un jardin sur la terre, pour cultiver son cœur, et prendre à l'éphémère ce qu'il a de meilleur. Semer en étant sûr que l'on donne la vie, de la graine au bourgeon et de la fleur aux fruits. Un jardin sur la terre, un Éden avant l'heure. Un jardin sur la terre, est-ce pas le bonheur? À force de vouloir vivre à deux pour la vie, au point de s'accoupler avec n'importe qui, de faire de son lit plusieurs champs de bataille, collectionnant les cœurs à défaut de médailles. On arrive à se dire que rien n'est important, qu'on n'a plus rien à dire, on a perdu son temps. Un jardin sur la terre, un petit coin perdu, juste un tronc de misère, un abri, rien de plus. Un jardin sur la terre, pour cultiver son cœur, et prendre à l'éphémère ce qu'il a de meilleur. Semer en étant sûr que l'on donne la vie, de la graine au bourgeon et de la fleur aux fruits. Un jardin terre, un Éden avant l'heure, donnez-moi un jardin sur la terre.
Serge Lama nous a dit qu'il a eu la chance de ne pas se comparer aux autres. Pour les enfants qui ont la malchance d'être comparés aux autres, les troubles qui en résultent s'adressent aux soignants. C'est le temps où, jeune clinicien, j'ai été engagé à la guidance de l'infantile, par le docteur Jean Turnat, un homme et un médecin à l'écoute de l'humain. Son intervention à la journée d'études du 13 mars 1987 pour le 25e anniversaire de la Guidance, troisième intersecteur de pédopsychiatrie qu'il avait fondé, il reprenait l'histoire des origines. Je le cite. « Et nous voilà engagés. Engagés en octobre 1961 dans un travail d'action éducative en milieu ouvert. Il s'agissait d'une formule nouvelle, une innovation qui consistait à suivre l'enfant ou l'adolescent en le maintenant ou en le réintégrant dans son milieu naturel, familial, scolaire. L'acte de naissance de l'AEMO est inscrit dans les registres de l'Institut qu'on appelait pédotechnique, qui était dirigé par le docteur Choran et qui a été le premier centre d'observation de l'infantile en France, dont dépendait l'école d'éducateurs spécialisés de Saint-Simon. Il existait à cette époque une liste d'attente d'enfants déscolarisés devant entrer au centre d'observation. L'assistante sociale du centre, chargée en attendant de s'occuper des familles, constatait que les situations évoluaient favorablement pendant cette période d'attente, accompagnée par des présences de soins qu'on pouvait appeler de précure en attendant. Si bien qu'assez fréquemment, l'état des enfants ne justifiait plus l'entrée dans l'établissement. Cette nouvelle approche apparaissait comme une alternative à l'internat, destinée à lutter contre certaines formes d'enfermement des enfants loin de leur famille. Cela rejoignait en ce sens le courant de pensée qui était à l'œuvre dans la psychiatrie adulte et qui cherchait à faire sortir les malades de l'asile. Cette démarche allait déboucher sur la sectorisation des dispositifs de soins pour adultes comme pour les enfants et les adolescents, pour les mettre au plus près de la population. Fin de citation. Alors, fidèle à la reconnaissance du docteur Turnin, ma clinique de l'engagement s'est développée autour de l'infantile et du parental. Le soin, c'est le temps où l'impatience du patient doit être nourrie de l'engagement des soignants, de tous les soignants, y compris les parents, les enseignants. Cet engagement nécessite de construire avec l'infantile traumatisé de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte, y compris de l'adulte en situation de parental, il faut établir un lien de confiance suffisant pour restaurer un sentiment de continuité et retisser l'indispensable besoin d'appartenir à une histoire. Alors voilà pourquoi j'ai accepté d'animer cette émission. Prenons soin les uns des autres et allons chercher dans notre créativité le moyen d'exprimer ce qu'il y a de plus important à l'intérieur de nous, cet infantile brut qui demande, comme le renard, à être apprivoisé. Je vous dis à bientôt dans les passages.
Se pensi che gli anni non andrà a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. È un sogno la vita che parsi gradita, è breve gioire, bisogna morire, non val medicina. Non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire.